Bonjour à tous, Orlane Jauregui, moi je suis directrice générale de l'agence d'attractivité de l'Eure, Eureka.
Alors l'Eure, c'est un vaste département, comment on pourrait le définir ?
Ah, alors l'Eure, c'est un département de charme qui a la forme d'un cœur. Alors ça dit déjà beaucoup sur la manière dont on s'exprime ici, avec le cœur, qui est à la jonction de la région parisienne et la Normandie, puisque nous sommes normands, hein, c'est l'Eure en Normandie. Et donc nous sommes pile sur la route entre Paris et la mer, donc des destinations connues comme Deauville, Honfleur, voilà.
Alors ça, à la fois un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est que vous êtes près de la région parisienne, on peut imaginer une attractivité pour les amoureux de la nature, d'une certaine manière, mais en même temps, il y a l'attractivité de la côte et des grandes villes qui font que ces personnes, parfois, souhaitent aller rapidement par l'autoroute dans des lieux de résidence, on va dire.
Oui, alors nous, on a une forte concurrence. Hein. On a la capitale de la France, qui est notre voisine, qui est à une heure de chez nous, et puis on a la concurrence, effectivement, de ce qui fait rêver Deauville, Trouville, Honfleur. Donc quand vous êtes un territoire comme ça de passage, il vous faut avoir une capacité à une expression originale qui sort des sentiers battus, qui fait que d'un seul coup on se dit mais tiens, si on sortait de l'autoroute plus tôt. Donc ça nous oblige à beaucoup d'inventivité et ça nous oblige aussi à aller chercher dans nos racines ce qui fait vraiment notre différence par rapport aux autres territoires normands.
Et donc, quand on visite un peu ce territoire, on est quand même agréablement surpris, même parfois étonné, de magnifiques espaces avec des demeures somptueuses parfois. On sent qu'il y a eu de l'argent à un moment donné dans ce territoire.
Alors on dit dans l'Eure qu'il y a autant de communes 600 que de châteaux par exemple. Alors c'est vrai qu'on est la base arrière à la campagne, de nombreux illustres, artistes, grandes familles qui voulaient quitter Paris le week-end sans pour autant faire 2h30 de route, parce qu'à l'époque les voitures n'étaient pas aussi performantes qu'aujourd'hui, le train n'était pas développé, et donc c'est vrai qu'elles ont construit ces familles des immenses manoirs, des châteaux, des hôtels particuliers dans des endroits évidemment somptueux en termes de nature. Et donc on se retrouve avec ce patrimoine qui est exceptionnel. Oui, des constructions exceptionnelles dans des écrins exceptionnels. C'est-à-dire qu'on a les deux, hein, on a la boîte et le cadeau à l'intérieur. Et ces familles vivaient en quelque sorte cachées. C'est-à-dire que c'était l'endroit où on se retrouvait entre amis, en famille, pas très loin de Paris, où on fermait les portes du manoir et où on se retrouvait dans un luxe inouï. On a gardé toutes ces traces-là qu'on réhabilite avec le temps. Donc énormément d'investisseurs parisiens viennent chez nous acheter ces biens patrimoniaux pour en faire des hôtels, des restaurants, des chambres d'hôtes. Beaucoup d'Américains également, beaucoup d'Anglais. Et nous, on attire en fait ces investisseurs pour faire en sorte que notre patrimoine reste debout et si possible, soit visitable.
Et puis on a aussi des lieux qui nous emmènent loin dans l'histoire, voire même à l'époque du Moyen-Âge avec ces châteaux forts.
Ah oui, alors chez nous, c'est... si vous aimez l'histoire, vous êtes gâtés. Hein. Ça part du château de Gisors avec le trésor des Templiers. Pour ceux qui s'intéressent à cette histoire, c'est toute la vallée des Vikings aussi, hein, puisque les Vikings sont passés par la Seine, donc on a des traces vikings énormes chez nous. Le château du domaine d'Harcourt, que je conseille à tout le monde d'aller visiter, qui est quelque chose de magistral, été comme hiver. C'est aussi Château Gaillard, avec des paysages de châteaux qui surplombent la Seine, des falaises inouïes. Enfin voilà, l'Eure a 1000 visages, 1000 pépites. Le tout, c'est de sortir de l'autoroute.
Et il y a un endroit que j'adore, c'est l'endroit où Monet s'est installé, je ne sais pas si c'était à la fin de sa vie plutôt, et là où il a un espace avec des nénuphars bien sûr, des lotus, quelque chose de très japonisant en même temps. Donc ça se passe dans une ville qui s'appelle Giverny, et c'est un lieu romantique à l'excès, j'allais dire presque.
Alors, on a cette chance, on n'a pas le Mont-Saint-Michel, on n'a pas la Tour Eiffel, mais on a Giverny avec la maison de Claude Monet, son atelier d'artiste. Et puis ça tombe, puisque Claude Monet est décédé à Giverny et que sa tombe est toujours visitable. Alors, c'est le haut lieu du tourisme culturel et pictural dans l'Eure. C'est 700 000 visiteurs par an, Giverny, pour un tout petit village de quelques âmes, où on a effectivement les jardins que Claude Monet a lui-même dessinés. Je rappelle qu'il a détourné un bras de rivière pour faire en sorte d'avoir les bassins. On a encore aux archives départementales de l'Eure la demande de permis de construire de Claude Monet signée par sa main et quelques d'ailleurs noms d'oiseaux proférés par lui vis-à-vis du préfet de l'époque pour faire avancer le projet. Donc c'est pour dire qu'il y tenait. toute la série des Nymphéas a été peinte par Claude Monet à Giverny. Il a fait construire un atelier d'artiste avec des hauteurs de plafond incroyables parce que les œuvres étaient énormes et étaient vraiment très grandes. Donc on a tout se passé chez nous, mais aussi effectivement la petite auberge du bout de la rue Claude Monet qui a accueilli Caillebotte, Renoir et tous les autres artistes amis de Claude Monet dans lesquels il venait dormir et manger chez, dans cette auberge. Tout est resté dans son jus. Et évidemment, c'est quand vous venez à Giverny, vous venez dans l'heure, donc restez quelques jours.
La maison de Monet est magnifique à visiter également. Hein. Elle donne sur les jardins extraordinaires. À visiter peut-être davantage, j'allais dire mai-juin, ce serait parfait.
Alors oui, parce qu'on est plutôt une destination de printemps, puisqu'ici la nature est quand même conquérante. Donc on va se dire fin mars jusque fin novembre à peu près, où vous pouvez, selon les années, hein, parce qu'on a aussi des météos compliquées parfois, même l'été, mais vous pouvez venir visiter évidemment la maison de Claude Monet, dans laquelle, je précise, il n'y a aucune œuvre réelle, puisque ce sont des copies, les jardins de la maison de Claude Monet, la maison de Claude Monet, et puis ensuite vous continuez votre chemin et vous allez au musée des impressionnismes de Giverny, où là vous avez les vraies toiles, et là c'est un voyage exceptionnel.
Par contre, dans la maison de Monet, si mon souvenir est bon, il y a de vraies cuisines.
Alors, toutes les pièces sont restées de manière intacte, comme si Claude Monet venait de sortir. On a le lit dans lequel il est décédé, on a sa chambre, on a la cuisine, la salle à manger ce sont des photos, vous savez, ces couleurs jaunes et bleues qui sont extrêmement connues, qui font le tour du monde, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les œuvres de Claude Monet sont présentes dans les plus grands musées du monde. Giverny, l'Eure et la Normandie, ce sont des marques mondes qui sont connues par les Américains, les Australiens, les Chinois, les Japonais, l'Europe du Nord, partout dans le monde, on connaît cette marque qui est en fait la nôtre.
Alors évidemment, on n'a pas encore parlé beaucoup de la ruralité. C'est pourtant essentiel dans le département de l'Eure.
Nous sommes un département rural et on le revendique. Rural et agricole, quasiment en banlieue de Paris. Enfin, c'est ça qui donne en fait notre teinte originale. On a des paysages qui sont façonnés par nos agriculteurs ici et auxquels on tient parce que ça fait partie de notre identité. Certains pourront dire que, voilà, vous savez, cette vision parfois des grandes villes sur la campagne. Nous, on a les deux, en fait. On a ce charme de la campagne et cette authenticité et cette capacité d'avoir les gens de la terre qui produisent ce qu'on mange, qui produisent ce qu'il faut pour nous nourrir. Et en même temps, cette proximité d'aires urbaines qui nous permettent de rester connectés et d'être une destination quasiment idéale.
Avec des spécialités qu'on retrouve dans des départements voisins aussi ?
Alors, des spécialités, oui. Je vais en prendre une, par exemple, parce qu'elle est peut-être méconnue. C'est que nous faisons partie de la région Normandie, qui est la première productrice de lin d'Europe. Nous sommes vraiment le grenier à lin. Alors le lin, évidemment, pour les tissus, hein, parce que c'est vraiment redevenu aujourd'hui à la mode, puisqu'on recherche l'authenticité et le naturel, mais aussi le lin pour l'huile, pour les graines, pour... voilà. Donc nous sommes première terre de production de lin en Europe. Ça fait des champs qui sont magnifiques. Vous avez cette fleur qui est très légère, d'un bleu sublime, qui est très éphémère, donc ça ajoute au côté romanesque de l'affaire. Et donc pendant 3-4 jours, deux fois dans l'année, puisque vous avez un lin d'hiver et un lin d'été, vous avez des paysages qui sont en majesté.
Est-ce que ce lin reste en France pour être travaillé ou est-ce qu'il va en Chine comme beaucoup de production de lin dans le nord de la France ?
Alors c'est tout le problème, c'est-à-dire qu'en fait le savoir-faire de filage de lin n'est plus français. Toutes nos machines, tout notre savoir-faire est parti effectivement en Chine parce que les coûts de production et de montage, c'est complexe de filer du lin, d'autant qu'il y a plusieurs manières de le faire. Et la bonne nouvelle, c'est que la Normandie a réintroduit dans l'Eure sa première usine pour filer le lin à nouveau. Alors c'est une filature au lin mouillé, très technique, mais qui a nécessité qu'on fasse venir de Chine des gens. Alors c'était compliqué pendant le Covid parce que c'est tombé à ce moment-là, qui réapprennent aux Français à monter ces machines, à les dépanner parce que c'est ultra complexe. Quand ça tombe en panne, c'est un enfer. Et donc on a retransféré à l'inverse en fait de l'histoire. On a fait revenir le savoir-faire du filage de lin ici en Normandie et notamment dans l'Eure. On est très fiers.
Voilà, deuxième transfert de technologie inversé.
Exactement.
Donc pour résumer, optimiste pour l'Eure.
J'ai souvent l'habitude de dire, alors les gens me regardent avec des yeux un peu écarquillés quand c'est comme ça, alors j'insiste. Je pense que les Aurois n'ont pas encore bien conscience de la chance qui est la leur que d'avoir un territoire aussi préservé. Le temps passant, quand on voit effectivement les dégâts climatiques, quand on voit ce que la sururbanisation a pu créer, le frein qui a été mis dans l'heure justement à cette capacité à vouloir bétonner à tout prix, sera récompensé dans les années à venir. Et je pense que c'est à ce moment-là que les Aurores diront, mais on a un Eldorado ici de nature et de territoire préservé qui finalement nous préserve nous aussi. Et je pense que, franchement, en France, les gens de la ville pleureront le fait peut-être de ne plus pouvoir accéder à la France de la campagne, et donc l'heure y compris.
Voilà, donc si j'ai bien compris, il est bientôt temps de remettre les pendules à l'heure.
Bien vu, exactement. Il est surtout temps de venir s'installer dans l'heure.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions.
Merci à vous.